Bien. Donc, j'ai donné comme titre mon intervention l'éthique du désir au réel. La question de l'éthique de la psychanalyse est largement présente dans l'enseignement de Lacan. Elle ne se limite pas au séminaire d'éthique. Et je voudrais commenter spécialement certains passages de Lacan à propos de l'éthique de la psychanalyse à des moments différents de son enseignement. Vous connaissez certainement le commentaire que fait Jacques Alain Miller du séminaire qui précède l'éthique, c'est-à-dire le séminaire sur le désir et son interprétation. Le point central de ce séminaire 6, c'est la fameuse affirmation de Lacan, point central que Jacques Alain Miller met en valeur, c'est la fameuse affirmation de Lacan, n'est-ce pas, que je vais vous dire, le grand secret de la psychanalyse, c'est qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Alors cette affirmation, au fond, vient souligner que le nom du Père est toujours défaillant. C'est ça que souligne cette affirmation. Il n'y a pas d'autre de l'autre, veut dire qu'il n'y a pas la garantie du symbolique que semblait donner le nom du Père, que le nom du Père formule, en tout cas, le temps d'avant, dans l'enseignement de Lacan. Et à partir de ce moment-là, donc, le symbolique qui est organisé par ce point de capiton qu'est le nom du Père ne va plus fonctionner pour chaque sujet nécessairement avec ce même point de capiton. C'est important à souligner parce que on pourrait, du Lacan qui précède, tirer une éthique du nom du Père. Ce n'est pas ce que Lacan fait, mais c'est ce qu'un nombre important de psychanalystes font. De psychanalystes non lacaniens, mais aussi de psychanalystes lacaniens. N'est-ce pas, vous connaissez le débat, je ne sais pas où on est en Suisse de ce point de vue-là, mais le débat qui a eu lieu en Belgique, mais plus récemment en France, et plus vif en France aussi, sur le mariage pour tous, c'est-à-dire concrètement pour les homosexuels essentiellement, mais aussi les débats sur l'homoparentalité. Je ne sais pas exactement où en est la Suisse de ce point de vue.
Je ne sais pas non plus.
C'est cantonal peut-être. On me répond ça souvent en Suisse. Non, mais non.
Ça n'est pas possible. Donc la procréation pour tous n'est pas possible, mais tout le monde le fait.
D'accord.
Et dans cet hôpital, pour ceux qui y ont travaillé, il y a plein de gens qui font ça. Voilà. Mais pas ici. Ils vont en Belgique, ou bien ils vont en Espagne, ou bien ils vont en Californie, ou bien ils vont en Ukraine, ou bien ils vont en Inde.
C'est une curieuse série quand même, de la Belgique à l'Inde, que tu viens de déployer là. Mais donc, en effet, dans ce débat d'avoir en France du mariage pour tous, on a vu monter au créneau un certain nombre de psychanalystes d'autres écoles de la nôtre, contre le mariage pour tous, au nom de l'éthique du nom du Père, n'est-ce pas ? Au nom de ce que ça fixe pour chaque enfant des identifications, qu'il faut une structure mère, père, enfant, cette structure triangulaire classique, etc. C'est-à-dire que c'est des psychanalystes qui sont venus parler au nom du Père, comme on en parle aussi bien dans la religion. C'est-à-dire que l'éthique qui se fonde sur le nom du Père est une éthique qui défend la religion. Et certainement, notre école, et d'ailleurs Jacques Alain Miller lui-même, ont réagi à ça. mais plusieurs d'entre eux aussi. Le débat avait déjà eu lieu en Belgique auparavant, y compris donc là sur la procréation et l'homoparentalité, c'est-à-dire l'adoption possible, en tout cas par des homosexuels, par des couples homosexuels. Alors, cette lecture de l'éthique du nom du père est une lecture qui se fait à partir de ce point de Carleton, qu'est le nom du père chez Lacan, qui est aussi bien le père de l'Oedipe chez Freud. Ça n'est pas vraiment la position éthique de Lacan, même s'il formule ce nom du père. Si on cherche à trouver des indications éthiques chez Lacan avant cela, il me semble que l'indication éthique qui me paraît la plus importante chez Lacan auparavant, c'est équivaut, au fond, pour l'action psychanalytique, dans le maniement de la clinique, c'est ce que Lacan formule dans le séminaire 3 sous la formule « ne pas comprendre trop vite ». Il ne faut jamais comprendre trop vite. C'est-à-dire qu'il s'agit... bien sûr là, de ne pas comprendre avec les évidences imaginaires, mais aussi de suivre les signifiants de l'analysant. Comme le dit Freud, la psychanalyse doit se réinventer à chaque cure. On pourrait dire évidemment que ce sont là des remarques techniques, mais Lacan fait remarquer que les écrits techniques chez Freud sont en fait des écrits éthiques, puisque ce sont des écrits qui mettent en valeur l'orientation et pas des éléments de trucs techniques. Il s'agit en effet, dans l'orientation éthique de la psychanalyse, d'oublier ce qu'on sait pour entendre la surprise, pour qu'apparaisse le nouveau, le singulier de l'analysant. C'est-à-dire que l'éthique psychanalytique, en tout cas un principe d'éthique psychanalytique, concerne le savoir qui détermine l'acte. La psychanalyse est une clinique avant d'être une théorie. Et aussi bien, d'ailleurs, si on réfléchit à la question du diagnostic, ça s'est évoqué ici dans la dernière séquence, au fond, cette question du diagnostic est moins intéressante du côté de l'étiquette qui va se mettre que du côté du débat que ça engage. Quand Jacques-Alain Miller introduit le terme de psychose ordinaire il y a quelques années, il a précisé que ce qu'il y avait d'intéressant en termes de psychose ordinaire, c'est davantage l'ouverture au débat que ça introduit que la précision diagnostique. D'ailleurs, je pense qu'il faut plutôt éviter de poser trop vite à l'occasion le diagnostic de psychose dans les situations complexes. C'est quoi le diagnostic? C'est une étiquette qui dit très peu du sujet, qui règle l'acte analytique du côté de la prudence, parce qu'on a l'idée que si c'est quelqu'un qui en effet est sur le versant de la psychose ordinaire, eh bien il faudra agir avec une certaine prudence pour éviter qu'il déclenche. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une incitation à trop de prudence, qui fait que la cure en est paralysée. Bref, ce que je veux dire, c'est que, au fond, ces éléments du savoir doivent toujours être secondaires à la clinique elle-même. C'est la clinique qui nous oriente et pas la théorie. C'est une position théorique, une position éthique, par contre, que Lacan va développer, qu'il va théoriser plus clairement encore lors de la proposition d'octobre. Lorsqu'il formule que c'est l'insu qui donne le cadre du savoir. L'insu, c'est pas ce qu'on ne sait pas simplement, c'est ce qui n'a pas de nom, ce qui n'a pas de signifiant, ce qui ne peut se dire, et qui donc concerne davantage le réel et la jouissance. Jacques-Alain Miller fait remarquer qu'à l'envers de Wittgenstein, qui propose lui que ce qui ne peut se dire, il faut le taire. À l'envers de Wittgenstein, le psychanalyste, lui, demande que ce qui ne peut se dire, il faut le dire quand même. C'est dans la cure, quand on arrive sur une butée de ce qui ne peut pas se dire, eh bien, la cure continue du côté, d'essayer de le dire quand même, d'en trouver les formulations. Donc cette question du rapport au savoir est essentielle du point de vue de la clinique analytique, du point de vue de l'éthique de cette clinique. C'est bien ça, bien entendu, par rapport aux psychoses, du côté du maniement de la clinique, puisque dans les cures, aussi bien que dans le travail en institution, il s'agit à l'occasion de pouvoir se mettre du côté de l'autre qui ne sait pas. C'est la position du psychanalyste. Je me souviens d'ailleurs d'une femme que j'ai vue quelquefois, une psychotique, que j'ai vue quelquefois et qui ne parlait quasi pas. C'était un peu embarrassant, parce que je n'en ai pas pu, au fond, en conclure grand-chose. Et puis elle n'est plus venue. Et elle est revenue me voir un an plus tard. Et elle m'a expliqué qu'au moment où elle est venue me voir, cette fois-là, elle parlait. Que quand elle est venue me voir la première fois, elle ne parlait pas parce qu'elle avait l'idée que de toute façon, je savais déjà. C'est évidemment, elle était en plein délire psychotique, un délire silencieux, certain que l'autre savait. Du côté, donc, bien sûr, de l'interprétation paranoïaque. Mais, cette position de retenue par rapport au savoir est une position éthique plus générale du psychanalyste. Avec le séminaire sur l'éthique, Lacan prend en compte, dans ce séminaire, la chute du père. C'est-à-dire qu'il anticipe sur ce qui est en train de se passer. Remarquez qu'il anticipe d'ailleurs en s'appuyant sur ce qui s'est déjà passé. J'ai trouvé ça très amusant à voir au fond, parce qu'on parle du déclin de la fonction paternelle, que Lacan là, anticipe ce déclin très tôt dans son enseignement, et en tout cas déjà dans le séminaire sur l'éthique. Mais dans le séminaire sur l'éthique, il fait lui reporter ce déclin de la fonction paternelle sous le terme de déclin du maître à un siècle plus tôt. C'est-à-dire qu'il voit le mouvement social qui est en jeu là-dedans. Je vous le cite, c'est à la page 21 du séminaire. Ce qui s'est passé au début du 19e siècle, c'est la conversion ou réversion utilitariste. Nous pouvons spécifier ce moment d'un déclin radical de la fonction du maître, laquelle régit évidemment toute la réflexion aristotélicienne, etc. C'est dans Hegel que nous trouvons exprimée la dévalorisation extrême de la position du maître. Puisque celui-ci fait du maître la grande dupe, le cocu magnifique de l'évolution historique, la vertu du progrès passant par les voies du vaincu, c'est-à-dire de l'esclave et de son travail. Et donc Lacan s'appuie dans ce séminaire de cette anticipation à rebours, disons, aussi bien de la chute de la fonction paternelle, de la chute de la fonction du maître. Et il tire les conséquences de ce que donc il a développé dans le séminaire 6 sur le désir et son interprétation. Dans le séminaire 6, Miller a montré, souligné comment la dévalorisation du père est mise en avant. C'est-à-dire le père ne tient pas sa fonction. Il ne peut pas la tenir. C'est toute l'histoire d'Hamlet qui montre comment la jouissance d'une femme déborde absolument ce qui peut être réglé par le père. N'est-ce pas ? Vous vous souvenez certainement de cette histoire où Hamlet a affaire avec une mère qui déjà, enfin le père à peine mort, déjà est prêt à épouser le suivant, qui est en fait l'assassin de son père. Pour le dire autrement, on pourrait dire que le drame de tout humain, c'est que sa mère est aussi une femme. C'est-à-dire, a une jouissance qui n'est pas entièrement réglable dans la fonction paternelle. Dès lors, à partir du séminaire 6, le réglage du sujet, la manière que peut avoir le sujet de capitonner son existence, va se faire sur le désir et sur le fantasme. C'est toute l'articulation d'Hamlet à Ophélie. Et donc, dans le séminaire qui suit, c'est-à-dire le séminaire sur l'éthique, Lacan formule une éthique par rapport au désir. Une éthique qu'il dit orientée vers le réel. C'est encore une fois la page 21 du séminaire. La question éthique, pour autant que la position de Freud nous y fait faire un progrès, s'articule d'une orientation du repérage de l'homme par rapport au réel. C'est ce que soulignait d'ailleurs tout à l'heure François dans son introduction. Le désir ici, dont il s'agit, implique un lien à la chose, c'est-à-dire au très réel. On peut dire aussi le réel, quand Lacan parle ici, c'est aussi la réalité psychique freudienne entre désir et fantasme. Lacan en vient à la formule que vous connaissez du séminaire, la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Évidemment, comment comprendre cette phrase ? Je vais revenir un peu dessus et sur le commentaire qu'on peut en donner. Comment comprendre cette phrase ? Il s'agit d'abord de ne pas la comprendre de la mauvaise manière. Elle a été très rapidement comprise de la mauvaise manière. Par exemple, par M. Grimm, psychanalyste français, qui n'est pas lacanien pour le coup, et qui, dans un texte qui était publié par Le Monde le 10 février 1990, reproche à Lacan ce terme, ne pas céder sur son désir, en disant que cet énoncé de Lacan pousse à une menace du point de vue de la morale publique, puisque ça pousse à l'idée du franchissement, ça pousse à l'idée de faites ce que vous voulez. Or, la phrase de Lacan est à rebours de cette interprétation de Grimm. Ce n'est pas une dissolution de la morale publique dont il s'agit, mais c'est une autre exigence morale. Cette phrase de Lacan traduit la remarque de Freud sur la renonciation pulsionnelle. N'est-ce pas ? Freud fait remarquer que la renonciation pulsionnelle augmente le surmoi et provoque la culpabilité. Jacques Alain Miller commente longuement ça dans Le banquet des analystes, dans son cours du 15 novembre 1989. En substance, ce qu'il dit, c'est que ce que l'analyse produit, ce qu'on peut attendre d'une analyse, c'est une transmutation subjective, spécialement, dit-il, une modification par rapport au surmoi. Dans la mesure où le surmoi freudien est ce qui se nourrit dans le sujet des renoncements à la pulsion. Et c'est pour ça que dans l'éthique de la psychanalyse, Lacan peut dire que la seule chose dont on peut être coupable, c'est de céder sur nos désirs. Il ne fait là que traduire la phrase de Freud sur les effets de la renonciation pulsionnelle sur le sujet. La renonciation pulsionnelle nourrit la culpabilité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Lacan dans son séminaire, page 350, « Le surmoi, là je le cite de mémoire, je le cite approximativement, le surmoi est d'autant plus exigeant qu'on lui cède. Davantage vous cédez au surmoi, plus il en demande. Ne pas céder sur le désir, dès lors, consiste à transformer le désir en volonté. C'est une proposition de Jacques Alain Miller dans son texte « Politique lacanienne » du 18 mars 2000. Lacan, en effet, dans ce séminaire, lit l'éthique du désir au savoir tragique d'Œdipe, comme volonté de savoir. Il a su et veut savoir plus loin encore. C'est le fameux « mais funaille », une fonction du désir qui reste en rapport fondamental avec la mort. Le désir dans sa valeur aussi bien de lien à la pulsion de mort. C'est à l'envers de l'éthique traditionnelle aristotélicienne, qui est une éthique du pouvoir et des biens, éthique qui n'a que faire du désir, l'éthique qui nous dit que pour les désirs, vous repasserez. Vous, ici à Genève, ça m'a fait penser en venant ici à Rousseau et à l'Émile de Rousseau, n'est-ce pas ? Il y a dans l'Émile de Rousseau quelque chose d'absolument formidable, c'est qu'il utilise les termes de besoin, demande et désir explicitement, n'est-ce pas ? Et il propose que pour Émile, il s'agit bien d'assurer tous les besoins de l'enfant, de répondre à ses demandes dans la mesure où elle n'ouvre pas ce déséquilibre, et de se tenir à distance de ses désirs. Je trouve que c'est formidable parce que ça vous montre bien, au fond, ça, l'éthique traditionnelle, très classique, même si c'est évidemment un peu aux limites délirant dans l'histoire des mythes, puisque si ça marche, au moins en théorie, dans la fiction des mythes, ça pose quand même des problèmes à Rousseau dès qu'il apporte d'ailleurs l'adolescence des mythes. Mais c'est une autre question. Alors, cette question du rapport du désir au savoir est reprise par Lacan comme choix éthique dans un séminaire ultérieur qui est d'un autre à l'autre, et spécialement dans son chapitre 21. Je voulais reprendre là cette question. Ce chapitre 21 porte sur la question de la biographie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une biographie du point de vue psychanalytique? On pourrait dire, je prends les choses parce que j'avais fait un petit travail là-dessus, à partir même de l'enfant, au fond, on pourrait se poser la question, l'enfant a-t-il une biographie? Je pense que du point de vue psychanalytique, on ne peut que répondre oui, il a une histoire. Remarquez que certains croient volontiers que cette histoire est inutile, qu'il est essentiellement un être en développement. Et d'ailleurs que lorsqu'arrive un traumatisme, et c'est évoqué à plus d'une reprise aujourd'hui, lorsqu'arrive un événement traumatique, l'événement cause des effets, l'événement traumatique cause des effets qui sont indépendant du sujet lui-même, cause des effets traumatiques. Or, c'est évidemment extrêmement courant aujourd'hui, si il suffit qu'on parle de ce qu'un enfant a subi, des accouchements, enfin si on prend des trucs un peu à la mode aujourd'hui du côté du traumatisme, pour que immédiatement tous les services sociaux pensent que c'est une catastrophe traumatique. Or, on sait bien que ça va dépendre beaucoup d'un enfant à l'autre, même si, de toute manière, ça n'est pas judicieux. Ça n'est pas du tout la position de la psychanalyse. Depuis Freud, au contraire, on considère que l'histoire même de l'enfant, l'histoire de ce qu'il a été jusque-là, est déterminante sur ce qui est traumatique pour lui ou pas, et sur comment à rebours ce traumatisme aura des effets et comment il y répondra. Vous vous rappelez certainement le fameux petit cas Emma, qui est de ce point de vue-là chez Freud exemplaire. Cette petite jeune fille, c'est le début de Freud encore, cette petite jeune fille qui n'ose pas aller dans une épicerie parce que depuis qu'un épicier a ri d'elle en regardant sa jupe. Et au fond, tout ça qui apparaît comme vraiment la scène traumatique qui fait que depuis lors, elle a un symptôme, elle ne peut pas aller dans une épicerie, en fait renvoie un trauma plus ancien, qui à l'époque n'avait pas été traumatique du tout, et qui avait été que chez un autre épicier, elle était allée, et l'épicier avait ri en lui soulevant la jupe et en provoquant un attouchement. Et donc là, on voit bien comment pour Freud, c'est dans la mesure où il y a une répétition, c'est dans la mesure où il y a un autre trauma, où il y a déjà une histoire avant, que le second trauma, que le trauma qui survient, apparaisse dans sa dimension traumatique comme réponse d'un sujet. C'est-à-dire ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire dans plus d'un cas, je reprendrai là simplement celui de cette femme d'Argentine qui a subi des choses absolument épouvantables et absolument traumatiques. Néanmoins, qu'ensuite elle soit battue par son fils, au fond, ne peut pas nous empêcher, ça ne peut pas ne pas nous faire penser à comment elle reproduit là quelque chose de ce qui s'est déjà passé avant, n'est-ce pas ? Et comment son désir est déterminant dans l'affaire, et ce n'est qu'à tenir compte de son histoire que on peut en effet rendre compte de ce qui se passe pour elle. Donc il est important en effet de considérer, même pour un enfant, même pour un petit enfant, que dans ce qui lui arrive, il y a déjà une histoire avant. Mais cette histoire avant n'est pas seulement une histoire de fait, cette histoire de ce qui s'est passé avant, c'est aussi une fiction. C'est-à-dire qu'il demande toujours à être interprété. Vous connaissez comme moi ces situations où, en effet, les parents, voire l'enfant, peut raconter une histoire faite d'une liste de faits médicaux souvent, parfois, juste d'une série de petits faits. Comment ça ne vaut pas vraiment comme histoire subjective. Il s'agit, au contraire, que ces faits soient transformés en histoire, c'est-à-dire en fiction. Toute biographie est fiction, pourrait-on dire. Il y a, d'ailleurs, Philippe Solers a publié une autobiographie sous le titre « Un vrai roman mémoire ». C'est très bien vu, parce qu'au fond, même une autobiographie, c'est une fiction, c'est-à-dire c'est un roman. C'est une interprétation, déjà, de ce qui s'est passé. Au fond, l'interprétation analytique va aller du côté d'à partir des bouts de vie, des morceaux de discours que raconte l'enfant, de se mettre à les faire résonner un peu autrement, de façon à ce que le sens se modifie ou se défait, de façon à ce qu'un pas de sens puisse être franchi. Pas de sens que Lacan écrit avec des tirets, des traits d'union entre pas de et sens, pour équivoquer avec le pas de Calais, c'est-à-dire avec le franchissement dans le sens. Alors, d'un autre à l'autre, Lacan va plus loin. Parce que dans le chapitre que je commente, là, d'un autre à l'autre, il fait une théorie de la biographie qui va au-delà de ça. Il considère que dans toute biographie, au-delà donc du fait que c'est pas seulement un événement qui s'est produit, mais il s'est produit sur le fond d'une histoire, et que cette histoire n'est pas que des faits, mais une fiction, au-delà de ça, Lacan considère qu'un point échappe radicalement, qui est cependant celui qui est en cause dans tous les éléments de cette biographie. Il s'agit d'une jouissance située hors tout savoir possible. À ce niveau, à son niveau, là je cite Lacan, à son niveau, l'expérience analytique repère quelque part le point à l'infini de tout ce qui s'ordonne dans l'ordre des combinaisons signifiantes. Ce point à l'infini est irréductible en tant qu'il conserve une certaine jouissance. Ce signifiant de la jouissance, signifiant exclu, autour de quoi s'ordonne toute la biographie. En d'autres termes, ce que propose Lacan, c'est que dans toute histoire d'un sujet, au-delà de tous les éléments de la biographie, au-delà des événements, il y a un point qui est l'essentiel, qui est le point essentiel à partir duquel tout s'articule, et qui est, au fond, une jouissance, une certaine jouissance, dont le signifiant est exclu, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas se dire complètement. C'est le fameux S de grand tabac. Or, tout savoir, hors articulation signifiante, C'est ce que Lacan va désigner aussi plus tard dans son enseignement sous le terme de la lettre. On a évoqué aussi cette fonction à un moment. C'est sous le terme de la lettre, c'est-à-dire de ce qui opère une réduction du sens. À ce niveau, ce ne sont pas les anecdotes qui comptent, mais la manière dont s'y articulent le savoir, la jouissance et l'objet. Lacan fait remarquer que trop souvent, je le cite là, un analyste s'accoutume au terme « le père, la mère, la naissance d'un frère ou d'une petite sœur » et qu'il considère ces termes comme primitifs, alors qu'ils ne prennent sens et poids qu'en raison de la place qu'ils tiennent dans l'articulation du savoir, de la jouissance et d'un certain objet. La biographie, en tant que tissu de ces anecdotes, n'est en d'autres termes que le voile d'une impossible articulation complète de la jouissance en termes de savoir. Il faut que l'analyste le sache et ne se laisse pas séduire par le soi-disant statut originel de l'infantile. N'est-ce pas ? Une fois arrivé à l'histoire infantile, ça n'est pas encore le dernier mot. L'éthique de l'acte analytique est en effet de considérer ce qu'il y a au-delà de ça. C'est là une limite entre savoir biographique et jouissance que Lacan formalisera plus tard sous le terme aussi de littoral quand il parle de la lettre. Le littéral étant ainsi comme le littoral, une zone où deux consistances hétérogènes l'une à l'autre se rencontrent sans se recouvrir complètement. C'est-à-dire une zone où le savoir, l'élaboration signifiante et la jouissance, zone où elles se recouvrent, mais sans qu'il ne soit possible d'articuler l'une à l'autre. N'est-ce pas l'éthique analytique, l'éthique de l'acte analytique, consiste là pour l'analyste à ne pas croire au statut originel de l'infantile, à ne pas croire à l'histoire. L'analyste, en d'autres termes, doit être hérétique de la bonne façon. C'est impossible d'atteindre ce point entre jouissance et histoire du sujet, fait qu'il n'y a pas absolument, comme le dit Lacan, de choix de la névrose, parce que, dit-il, ce choix était déjà fait au niveau de ce qui s'est présenté pour le sujet. Le choix était déjà fait par la façon dont se sont présentées au sujet les fonctions vraiment primordiales. Alors Lacan laisse cependant un choix à faire par le sujet, qui n'est pas le choix de la névrose, mais qui est entre l'impossible et l'insuffisance, dit-il. Je précise, le sujet affronte-t-il l'impossible expression dans le savoir de cette jouissance, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'il peut dire, cherche-t-il à dire encore plus, n'est-ce pas ? Au contraire de Wittgenstein, cherche-t-il à cerner ce bord de jouissance singulier ? Ou au contraire, le sujet masque-t-il cet impossible d'une insuffisance ? Alors il ne veut rien savoir de ce qui le cause, se contentant d'écrire les anecdotes de sa biographie. Il croit en son histoire infantile, en la pensant originelle, alors qu'elle n'est que le voile de ce qu'il a déterminé. Ce choix qui reste sujet est un choix éthique. Éthique de l'analysant. Tenir pour sien le choix déjà fait par la rencontre du réel et ne pas reculer devant le savoir. On retrouve ici, n'est-ce pas, ce « ne pas reculer devant le savoir » du séminaire sur l'éthique. Enfin, je voudrais évoquer un dernier moment de l'enseignement de Lacan à propos de cette question éthique. C'est dans le séminaire encore, à propos de la logique de la sexuation. Vous connaissez cette logique de la sexuation qui donc présente côté homme fois l'exception, l'exception de l'acte et du père, moyennant quoi tous se rangent en rang d'oignon dans la castration, sous cette exception. Et côté femme, l'absence d'exception, la femme n'existe pas, le trait de l'exception n'existe pas. Remarquez également qu'on peut dire, me semble-t-il, l'analyste n'existe pas. L'analyste au sens du trait qui définirait l'analyste. Et le patou, du côté rangé une par une. Cette logique de la sexuation-là nous donne, me semble-t-il, une indication éthique aussi pour le maniement de la cure, mais également, j'avais évoqué ça dans un travail fait il y a 2-3 ans, pour l'orientation d'une institution. Une institution orientée par le côté féminin. Au fond, d'une part, dans cette logique masculine, le patou, vraiment le tout, c'est le tout de l'ensemble, de l'autorité du maître. C'est l'analyste qui donnerait des conseils, qui dit ce qu'il faut faire. On voit bien que l'analyste ne pourrait pas se situer du côté du tout. Mais c'est également le tout, c'est également le savoir de ce qui est bien pour le sujet, l'idéal, l'idéal de ce qui serait affilié au sujet. Je pense au contraire que la proposition de Lacan, là, est clairement que la position d'analyste, la position éthique, je dirais, doit être d'être du côté du patou. Que ce qui est la part principale que nous prenons là-dedans, c'est le un par un. Le un par un qui est fondamentalement cette logique du patou, cette logique féminine. Les femmes, en effet, la femme n'existe pas, elles ne peuvent être prises qu'une par une. Le un par un du cas, et pas le un de l'idéal. Évidemment, c'est une logique qui fait la part aussi à l'illimité, pour une part, n'est-ce pas, du côté féminin. Il s'agit donc, dans cette logique du un par un, de construire avec le symptôme propre au sujet son propre principe de limitation. Je conclurai là-dessus, n'est-ce pas, le patou comme principe éthique du maniement de la cure analytique. Je vais en rester là, en permettant un moment de débat.
Bien. Discussion. C'est une tête forte, hein.
Ah bon?
Oui, c'est donc parce que là tu traverses différents séminaires pour établir une autre façon de penser l'éthique par rapport à celle du séminaire 7, qui est effectivement beaucoup sur la question du désir, la jouissance, de la chose, du réel, de la sublimation, et de mettre comme principe éthique une orientation à partir du patou. Je trouve que ça donne une orientation. Enfin, on comprend bien du côté de l'analyste, ce serait la question, ma curiosité. On comprend bien du côté de l'analyste. C'est comme ça que ça procède. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, du côté du fait de savoir réinventer l'analyse à chaque cure, finalement, qu'il ne s'agit pas de comprendre. D'ailleurs, il le dit dans le séminaire 7 aussi, page 323. Je vous ai toujours dit qu'il est important de ne pas comprendre pour comprendre.
Bien sûr. Hein,
toi, tu as pris du séminaire 3.
Mais,
enfin, voilà.
Donc, oui, mais ça, c'est présent, nous on est d'accord, mais ça, c'est présent depuis très tôt dans l'enseignement de Lacan, et ça reste présent ensuite.
Oui, il l'a dit à Genève aussi en 75, dans la conférence sur le symptôme. Il ne faut pas mettre les cas dans des casiers. Mais enfin, bon, alors, à partir de là, tu tends l'exposé vers le patou comme principe éthique. Et alors, en disant une orientation, une institution orientée depuis le patou. Oui. C'est-à-dire depuis le côté féminin. Est-ce que tu peux en dire plus ?
Oui.
Merci.
Comment ? On ne pourrait pas en dire tout, mais je peux en dire plus. D'abord, évidemment, le passage que je fais par d'un autre à l'autre, là, on voit bien que ça reste tout à fait dans le même fil que le séminaire sur l'éthique. Hein, mais ça précise le point de réel qui échappe à l'histoire du sujet entièrement. Et qui est, c'est-à-dire qu'au fond, très tôt dans l'histoire du sujet, qui détermine son histoire même, s'est fixé, enfin, c'est l'idée de la marque sur le corps, n'est-ce pas ? S'est fixé un trait de jouissance qui est déterminant, et toutes les petites histoires, papa, maman, etc., c'est déjà ce qui vient envelopper tout ça. Alors, sur ce qui est du tout et du pas tout, eux, je veux bien en dire un peu plus, je ne peux pas tout en dire en effet, mais... Alors, du côté institution, hein, une institution peut évidemment se fonder, même souvent elle est faite à partir d'un trait idéal, d'un trait, au fond on fait une institution pour quelque chose, c'est-à-dire pour que les enfants aillent mieux. Alors bien entendu, on ne peut pas totalement évacuer le trait d'idéal dans sa formalisation, puisqu'on est subsidié par une instance ou l'autre qui demande qu'on s'occupe des enfants en grande difficulté pour qu'ils aillent mieux. Là-dessus, on est d'accord. Mais le trait d'idéal, déjà dans les institutions d'enfants, les institutions, ce que j'appelle les institutions d'enfants, ce n'est pas forcément les hôpitaux, c'est plutôt les institutions résidentielles, etc., bien sûr. Vous en avez pas mal qui choisissent d'ailleurs des noms qui disent leur projet, hein, le nid doux, etc. Enfin, c'est-à-dire où déjà l'idéal est inscrit dans le nom propre. Moi, ça, je ne suis pas du tout pour, forcément. Mais quand je dis pas d'idéal, je pense qu'à la limite, il ne faut pas non plus que les personnes qui travaillent dans l'institution soient absolument spécifiées pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pour moi ni d'idéal nécessaire de ce que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire avec cet enfant. Enfin, je peux parler du courtier concrètement que j'ai fait. Hein. Au fond, ça ne me dérange pas du tout. Contrairement à dans certaines institutions, ça ne me dérange pas du tout qu'on n'agisse pas tous de la même manière. À condition qu'on en parle toujours en réunion et qu'on cherche la logique de ce qu'on fait et la logique de la clinique de l'enfant. Ça règle forcément les positions. Mais tous les trucs qui consistent à dire dorénavant, on ne va pas lui permettre de sortir tel moment, etc. Pour moi, ça ne vaut pas. C'est-à-dire que c'est, au fond, qu'il s'arrange avec chacun. Je ne suis pas pour unifier trop l'institution. Le pas tout, c'est aussi au fond, que pas, les règles ne doivent pas être les mêmes pour tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu aucune difficulté à dire à un enfant qu'en effet, celui-là pourrait faire ça, mais toi pas. Ben, on ne peut pas faire ça. Mais celui-là peut le faire. Ben oui. Alors, on dit ça comme on peut, mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit de dire, oh, tu sais, avec lui, on n'y arrive jamais. Tu sais comment c'est. Enfin, je n'ai jamais vu de difficulté à ce qu'on puisse en effet avoir une institution souple qui fonctionne, qui suit un peu les nécessités de chaque sujet. Il y a bien sûr dans un endroit comme le courtier quelques règles minimales, mais le minimal c'est 2-3, hein. C'est quand même le côté l'interdit de la violence évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais enfin c'est en limite. Donc, je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui opère du côté du tout ponctuellement, c'est-à-dire qui opère du côté du S1, de l'exception, dans quelques règles, dans un acte de fondation, dans quelques éléments, il y a des choses qui opèrent du côté de l'exception, mais c'est sans y croire, c'est-à-dire que c'est toujours un peu latéral. C'est comme Lacan peut dire, un père, on peut s'en passer à condition de s'en servir. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait quelques éléments qui fonctionnent comme du côté mal, de formule de la situation, du côté de l'exception et du pour tout. mais à condition justement de juste s'en servir. Pour l'essentiel, l'institution est à fabriquer à la limite en l'adaptant à chaque sujet, en adaptant même des règles à l'occasion à chaque sujet. Ça n'est pas une grande difficulté dans les institutions. Il suffit d'en parler en réunion, etc. Beaucoup de souplesse là-dessus. C'est ça que j'appelle une institution féminine. C'est qui ne fonctionne pas de façon avec des règles d'origine et qui n'a pas l'idée de ce qui serait bien pour un enfant. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple pratique ? Par exemple, je ne sais pas, moi, les ateliers, il y a donc des ateliers. On ne décide pas ce qui serait bien pour chaque enfant pour répartir les enfants des ateliers. Lui, il a besoin de ceci ou de ça. On voit plutôt comment ça s'accroche. Donc on part systématiquement de l'enfant. Est-ce que ça répond à ta question un peu ?
Moi, j'ai une question par rapport au désir, parce qu'on venait de Lausanne en train de discuter sur cette fameuse phrase de la seule chose dont on peut être coupable, c'est de se décider sur son désir, et que j'avais dit ça à quelqu'un qui est de l'ordre de maternelle sans cesse, m'avait dit céder sur son désir, qui n'est pas la mère, ou à son désir, ce qui m'a mis un petit peu, parce que l'un, c'est le contraire de l'autre. Et puis, moi, ça m'a mis, vous savez, sur, à, de, dans, ça me, comme aujourd'hui, ça me met dans la bâtard.
Non, mais la phrase de Lacan, c'est la seule chose dont on puisse être coupable est de céder sur son désir.
Sur son désir, voilà. Mais il disait que, alors, dans ce, ça, céder à son désir, c'était clair, donc il faut le faire. Mais l'autre, c'était le contraire. Et puis, Renato a intervenu en disant, Éric Laurent a dit qu'on comprend souvent le contraire, qu'il y a des gens qui disent, je ne cède pas sur mon désir, donc mon désir avant tout.
Et moi, je disais, mais ce n'est pas ça.
Oui, c'est pas ça. Donc, je disais, c'est justement le contraire. C'est donc renoncer à son désir dans le sens de la pulsion de mort. Enfin j'exagère un peu. Hein. Mais il y avait des ben, si on fait ça, si on renonce trop, on va dans le sens de surmoi. Hein? Donc il y avait une discussion comme ça. J'ai dit, je vais poser cette question à Alexandre Spiegel. Comment régler justement ce renoncement? Et en quoi il a à voir avec la sublimation?
Non, c'est un peu, j'insiste, c'est bien que tu poses cette question brute comme ça, parce que c'est important. Récemment, c'était par André Green, je crois, on m'a dit que dans la 24 heures, il y avait un article où un journaliste a dit « Oui, de toute façon, Lacan, c'est le régime de la pédophilie, c'était toute l'époque des grands pédophiles, Klosowski, Balthus, Lacan, puisqu'il ne fallait pas céder sur son désir, donc dès qu'on avait un désir, plonk. Et ça, c'est sorti dans un journal récemment.
Exactement, je m'agite. Je m'agite parce qu'il me semble que dans Malaise, et je crois que c'est dans Malaise dans la culture, où il parle de cette question du surmoi, enfin vous en avez parlé dans votre conférence, mais il me semble qu'il en parle. Alors je me demande, est-ce que vous auriez aussi un exemple clinique par rapport à cette question, plus on donne au surmoi, plus il devient féroce. Je crois que c'est ça que dit Freud dans Malaise dans la culture. Et donc, est-ce que vous auriez un exemple clinique, parce que c'est une question qui me taraude depuis un moment.
Voilà.
Il y a presque deux questions.
Ça, c'est deux questions différentes. Tiens, mais... Donc, il ne s'agit nullement chez Lacan de céder à son désir. Il ne dit pas ne pas céder à son désir. Il ne dit pas non plus céder à son désir. Il ne s'agit pas simplement de la question de céder à son désir. Cédez-vous à votre désir. Bon, c'est quoi votre désir? La question est là. Et c'est sur ça qu'il ne faut pas céder. Sachez quel est votre désir et agissez en conformité avec votre désir. Mais en conformité ne veut pas dire en le réalisant. Ça n'est pas une incitation à passer son fantasme à l'acte. Parce que souvent le côté ne pas céder sur son désir, au premier niveau, est entendu comme réaliser vos fantasmes. Alors, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ? C'est au contraire, ne réalisez pas. Réalisez un peu si vous voulez, mais ça produit toujours des difficultés. Mais plutôt, les fantasmes, c'est fait pour fantasmer, pas pour être réalisé. Et plutôt, au fond, c'est ne cédez pas à réaliser vos fantasmes comme si c'était votre désir, mais plutôt cherchez à élucider quel est votre désir. C'est ne pas céder sur l'élucidation de votre désir, élucidation du désir qui n'est pas simplement, après tout, parce qu'il y a aussi le côté, évidemment, j'ai entendu ça, y compris de collègues, hein, c'est un nombre d'années, c'est « je quitte ma femme, je ne cède pas sur mon désir ». Je veux bien, moi, mais c'est pas ça que conseillait Lacan. On peut quitter sa femme, mais pas au nom de Lacan. Et donc, plutôt, ne pas céder sur le désir, c'est ne pas céder sur son élucidation. Et son élucidation implique de reconnaître ce qu'il y a de pulsion de mort dans le désir. Et ça, c'est plus difficile. Ce qu'il y a donc d'abord de la jouissance sur ce bord-là. Et donc, l'incitation de Lacan, elle a une assaise plutôt. C'est pas allez-y avec votre désir, faites ce que vous voulez. C'est plutôt cerner ce que vous cherchez quand vous êtes en train de faire tel ou tel truc. Alors, on peut reprendre tous les cas cliniques qu'on a entendus dans le même sens. Cerner ce que vous cherchez quand vous faites une tentative de suicide comme adolescent. Quel est le désir qui vous pousse là ? Quel est le désir qui vous pousse en Argentine à accepter le commandement de l'organisation, etc.
Donc c'est avoir un désir averti, finalement, si je fais court. C'est d'être averti, de savoir...
Moi, Marc-Antoine, je dis, au fond, dans l'introduction, j'ai repris Lacan sur la pulsion de mort.
Tout à fait.
Et en fait, il dit « satisfaction d'un désir » versus satisfaction d'une pulsion.
Voilà.
Et élucider son désir, c'est élucider aussi la dimension de la pulsion qui est en jeu dans la satisfaction du désir.
Après, alors, évidemment, faire de son désir une volonté, etc., c'est vouloir ce qu'on désire, désirer ce qu'on veut, enfin...
Bon, tu as ouvert sur... il faut qu'on reste sur la question de Marc-Antoine,
oui.
Parce qu'il a l'air d'insister beaucoup. Si on prend le détour par ça, tu introduis sur l'homoparentalité et tout. Ce qu'on constate dans ces débats éthiques, c'est la distinction entre désirer, vouloir et devoir. C'est-à-dire que ça illustre votre gourmandise du surmoi. C'est-à-dire ce qui est possible peut être désiré, les désirs qui deviennent des droits. Dès lors que les désirs deviennent des droits, ça peut devenir une volonté à un tel point que le désir n'y est plus, et puis voire même ça peut devenir une obligation. Et on voit que dans l'usage des procréations médicalement assistées, j'ai fait cette série, donc je suis désolé de mettre de la Belgique jusqu'à l'Inde, j'ai fait grandir l'empire colonial nouveau, mais c'est la différence entre ceux qui vont en Espagne, en Belgique et en Californie, c'est que c'est des démarches cadré quand même par des règles, alors que ceux qui vont en Ukraine et en Inde, c'est uniquement une transaction financière. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transaction financière en Espagne ou en Belgique autour de ces démarches, mais on sait en Californie, une gestation pour autrui, ça coûte 100 000 dollars, c'est 20 000 pour la mère porteuse, c'est 20 000 pour les gynécologues et c'est 60 000 pour les avocats qui cadrent l'affaire. Bon, bref, j'ai perdu le fil. Je n'ai pas perdu. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, on tombe sur un problème assez... C'est-à-dire satisfaction de la pulsion, satisfaction du désir, volonté, obligation. Oui. désirer, vouloir,
devoir.
Devoir.
Oui, c'est ça.
Et par rapport à cette question, j'ai quatre minutes parce qu'on a eu un échange dans la pause, j'ai parlé, il y avait cette question d'un désir du maître absolu sur cette femme. Et pour répondre à Marc-Antoine, par exemple, c'était jamais sufficient, il fallait toujours plus d'engagement, d'action armée, jusqu'à. Etc. Et ça s'est fait comme ça. Donc, les surmois féroces, entre guillemets, du maître, il était là.
Voilà, voilà c'est je pensais à ce cas-là, en effet. Ouais. Vous demandez un cas clinique, le voilà.
Merci.
N'est-ce pas ouais. C'est-à-dire que. L'organisation, elle rentre dans l'organisation, elle fait des trucs, et puis elle cède, là y compris sur sa vie, sur sa survie possible, celle de son compagnon et les dangers pour son enfant. Enfin, elle cède une seule chose, là. Au surmoi. Plus elle donne au surmoi, plus l'organisation lui demande.
Ouais.
Mais j'ai un autre cas aussi auquel je pensais, c'est. Dans une zone un peu différente, mais un cas clinique, c'est un garçon qui va épouser une fille, et c'est un cas clinique qui est revenu d'un collègue, qui va épouser une fille, et, mais dans le temps avant les épousailles, à un moment, enfin, pris d'une pulsion particulière, il va s'exhiber devant une autre fille. Après ça, il est pris d'un remords et il veut absolument, enfin il a l'idée qu'il doit absolument en parler. Il va en parler d'abord à ses parents qui lui disent « Écoute, c'est une erreur de jeunesse, c'est pas grave, c'est bon. » Alors il se dit « Il faut que j'en parle à ma future femme. » Il lui en parle, elle le pardonne tout à fait. Pourquoi elle est imprudente? Et alors il trouve que bon, mais c'est quand même embêtant. Alors il va en parler à sa belle-mère, qui le pardonne aussi. Et bien finalement, il va en parler à la police, qui l'enferme. Ça me paraît. Bon, là, évidemment, il s'agit d'un sujet probablement pas complètement névrosé, comme on dit dans ces cas-là, mais où on voit le même mécanisme. Enflé le sujet dont Nelson a parlé, là c'est une femme dont rien ne nous dit qu'elle n'est pas névrosée, plutôt enfin sans doute à prendre sur ce versant là je ne sais pas au fond quel est votre avis. Ah oui, c'est ce qu'a priori, enfin je ne pose pas d'autres questions là-dessus, et là on voit très bien aussi le renoncement pousse un pas plus loin.
Merci.
Je vous en prie.
Autre question.
L'exemple de la vie de la France, c'est exactement ça, c'est jamais céder à son désir.
Parce
que la vie de la France, c'est ça, c'est jamais céder sur son désir, c'est non jamais arrêter de céder sur son désir.
Ah, est-ce que la vie de Lacan ouais. peut être dite comme ça? Ça, évidemment...
Je vois
ça. Si, mais moi, j'aurais une tendance à dire oui, en effet. Alors, sans aucune anecdote de la vie de Lacan, au fond, sur la perspective simplement de cet homme qui n'a jamais cédé sur le fait un pas de plus dans le savoir, en considérant que son enseignement était une manière, lui, de rester analysant, ça notamment, je pense qu'en effet on pourrait dire qu'il est un témoignage vivant de la vraie fonction que c'est ne pas céder sur son désir. Témoignage vivant, enfin, toujours lui décédé, mais sa vie en est un témoignage.
Donc on cède au temps qui passe, voilà. Et donc alors vous êtes donc invité par l'antenne TV et donc par vous-même du parc des Bastions, au restaurant du parc des Bastions, on se retrouve là-bas à 19h, donc c'est déjà 19h, mais tout va bien. On s'y rend comme on peut, puisqu'il n'y a pas de circulation possible. Je vous rappelle donc que l'antenne clinique de Genève recommence l'année prochaine, les dates sont déjà fixées, les invités de l'année sont fixés. Des séances de décembre, dont je ne sais pas si c'est nouveau l'escalade, est déjà fixé avec Philippe Lassagna qui viendra comme Alexandre aujourd'hui. Et le thème, c'est le séminaire 8 sur le transfert.
Et je viens de vous envoyer un mail pour les attestations et puis suivra dans une petite semaine toutes les infos pour l'année prochaine.
Donc je remercie Marco Panenti d'assumer cette fonction de trésorier de l'antenne clinique et de faire aussi des envois pour chaque convocation et le texte. C'est un travail qui nécessite insistance et régularité, ce qu'il fait extrêmement bien et on lui est reconnaissant.
Merci.
De même qu'à Daniel Fornereau qui chaque année fait les cahiers et qui va les publier cette année de nouveau un cahier donc numéro 6. Nous sommes à 7 cahiers avec un spécial qui était sur la science et la psychanalyse.
Le réel.
Merci beaucoup à Alexandre pour cette séance passionnante. Merci à chacun qui est intervenu.
Et pour le café du Parc des Bastions, si jamais vous ne trouvez pas, c'est pas loin de la ligne d'arrivée de la course. Vous allez trouver.
Il y a déjà une file d'attente avec les réformateurs.
Je dois vous remettre aussi.